Bonjour à chacun. Nous avons parlé de Noël et puis ça m'a fait penser à un certain nombre d'événements historiques qui nous rapportaient qu'entre autres pendant la première guerre, dans une guerre de tranchées où les ennemis étaient proches en distance les uns des autres, les Allemands d'un côté, les Français, Anglais de l'autre. Au niveau de la nuit de Noël, il y a eu une sorte de trêve, où, par je ne sais quel mystère intermédiaire, peut-être d'un côté ils chantaient des cantiques, de l'autre aussi, les soldats ont décidé de faire une trêve, ils sont même sortis des tranchées, ont fraternisé, ont partagé un repas. Et parce que Noël était bien perçu comme étant Dieu, en cette nuit particulière, veut la paix. Et la venue de Noël, justement, témoigne le fait que Dieu est venu auprès des hommes pour faire la paix. Mais ce qui a été terrible, c'est que ces soldats qui ont fraternisé ont été fusillés. Parce que le commandement s'est dit, mais si les hommes cessent de se faire la guerre, où allons-nous ? Mais il fallait faire un exemple, ils ont été fusillés. Nous-mêmes, nous sommes dans une guerre. La Bible nous révèle que nous sommes au cœur d'un grand conflit. D'un côté, il y a Dieu, le Créateur parfait, le Tout-Puissant, le Dieu juste et bon. Et de l'autre côté, il y a Satan, une créature puissante elle aussi, mais aussi, surtout, mauvaise, qui s'est rebellée contre Dieu. Et au cœur de cette guerre, il y a nous, les êtres humains. Nous qui avons été créés, hommes et femmes, en l'image de Dieu. Et que nous le voulions pas, que nous en soyons conscients ou non, nous sommes engagés dans cette guerre. Mais, un jour, cette guerre prendra fin. Et lorsque cette guerre sera finie, Jésus mettra d'un côté ceux qui ont été avec lui et de l'autre côté ceux qui ont été contre lui. Et si Jésus revenait demain, de quel côté Jésus nous placerait-il ? Est-ce que nous serions mis du bon côté, considérés comme étant avec lui ? Ou est-ce que nous serions mis du mauvais côté et considérés comme étant contre lui? Si Jésus revenait demain, dans quel camp serions-nous placés? Le thème de la prédication de ce matin est « Soyons avec Jésus, pas contre lui ». Et très peu de gens, très peu, se positionnent clairement comme étant contre Jésus. Et puisqu'ils ne sont pas opposés à Jésus, puisqu'ils ne sont pas contre, alors ils s'imaginent que lorsqu'ils comparaîtront devant Dieu, eh bien alors ils seront considérés par Dieu comme étant de son côté. Puisqu'ils ne sont pas contre Jésus, alors ils seront considérés comme étant avec Jésus. Eh bien, c'est une erreur. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même qui le dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12. Ce sera la page 626 pour ceux qui ont cette édition-là. Alors le contexte de cette parole de Jésus, Jésus vient d'accomplir un miracle. Il vient, devant une foule nombreuse, de libérer un homme qui était sous l'emprise d'un démon. Et puis le miracle qu'a fait Jésus étonne la foule, et ça c'est bien normal. Mais parmi cette foule, il y a des personnes religieuses, très instruites, qui s'intéressent à ce que Jésus a fait. Elles l'ont entendu prêcher, elles ont été les témoins de plusieurs de ses miracles, mais ces personnes, au lieu de suivre Jésus et de devenir ses disciples, ces personnes refusent de reconnaître que les miracles que Jésus a accomplis sont la preuve qu'il vient bien de Dieu. Et à leur intention, Jésus prononce ces paroles, c'est le verset 30, donc Matthieu 12 au verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Ne pas être avec Jésus, c'est être contre Jésus. Et je pense qu'il n'y a que Jésus qui puisse dire une chose pareille, parce que moi, de mon point de vue, c'est particulièrement choquant. Alors, est-ce que vous imaginez un peu, hein, si on remet ça dans un contexte de guerre, c'est la fin de la guerre, il y a un vainqueur, tout puissant, sa victoire est éclatante, et c'est le moment de rendre des comptes. Et puis, il convoque les personnes, et puis là, il pose la question. Tu étais où, toi, pendant la guerre? Je ne te connais pas. Tu n'étais pas avec moi. Tu n'étais pas à mes côtés. Et la sanction tombe. Tu es condamné à mort. À mort, tous ceux qui n'ont pas été avec moi. Si après une guerre, si après la dernière guerre mondiale, les choses s'étaient passées comme cela, si tous ceux qui n'avaient pas été directement engagés dans les combats, tous ceux qui ne s'étaient pas engagés dans la résistance, avaient été considérés comme des ennemis, il est probable que notre pays serait maintenant dépeuplé. On accuserait à juste titre, je pense, un vainqueur comme celui-là d'être un criminel, quelqu'un d'injuste. Mais Jésus est parfaitement juste. Jésus est parfaitement bon. Et Jésus dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Comment, pourquoi Jésus peut-il dire une chose pareille? Sur la feuille verte, j'espère que vous en avez tous une, je me suis amusé à reprendre un petit peu différentes catégories. Lorsqu'on s'intéresse à la guerre, les différentes personnes qui ont été confrontées à cette guerre sont généralement classées en différentes catégories. D'un côté, les ennemis. Après, les collaborateurs. Quand on dit collabo, ah, c'est un terme dur. Ceux qui ont été neutres, et ainsi de suite. Et je me suis dit, mais je pense qu'il est intéressant de pouvoir reprendre ces différentes catégories. Parce que lorsque nous pensons à la guerre dans laquelle nous sommes engagés, nous avons tendance à penser à une guerre classique. Mais pourtant, il y a bien des différences. Alors la première catégorie, c'est probablement la plus claire, la plus simple. Ce sont les ennemis. Là, on sait où on va. C'est clair. Alors sur le plan spirituel, les ennemis de Dieu, ce seraient ceux qui combattent Dieu ouvertement et consciemment aux côtés de Satan. Alors, je pense qu'ils sont très très minoritaires. Il y en a, hein, il y a des groupes sataniques, des sectes sataniques, mais ils sont très minoritaires. Eux, pour eux, dans leur tête, c'est clair. Ils savent qu'ils combattent contre Jésus. Donc là, on s'attend à quelque chose de tout à fait normal, puisqu'ils ont fait le choix d'être contre Jésus, eh bien, ils vont obtenir ce qu'ils méritent. Et ils vont rester contre Dieu, ils vont passer l'éternité loin de lui. Une autre catégorie, ceux qui ont collaboré avec l'ennemi. Alors, ils ne sont pas pour l'ennemi, à proprement dit, mais ils partagent avec l'ennemi certains intérêts ou certaines valeurs. Et à cause de cela, ils sont prêts à collaborer avec lui. Alors, pendant la dernière guerre en France, certains ont collaboré avec l'Allemagne. Et non pas parce qu'ils étaient nazis, mais parce que l'Allemagne se présentait comme étant la seule puissance capable de stopper quelque chose qui leur faisait particulièrement peur, le bolchevisme. Une idéologie qui, entre autres, voulait détruire le christianisme et l'Église. C'était clairement annoncé. Et parmi les gens qui avaient à cœur de défendre l'Église, plusieurs se sont engagés dans la collaboration avec l'Allemagne. Et bien sûr, ils les ont donc aussi aidés à commettre des atrocités. Et ces personnes ont été condamnées, jugées, fusillées. Sur le plan spirituel, ceux qui collaborent avec Satan ne sont pas pour Satan. Certains même pensent que Satan n'existe pas. Mais pourtant, et parfois sans le savoir, ils partagent avec Satan certaines valeurs, et entre autres celles-ci, ils refusent l'autorité de Dieu sur leur vie. Alors, soit de façon globale, ils ne veulent pas qu'un Dieu, quel qu'il soit, puisse leur dire quelque chose par rapport à leur vie. Ils veulent être les seuls maîtres de leur vie. Alors, ils sont peut-être athées. Moi, c'était mon cas, j'étais dans cette catégorie-là. Ni Dieu, ni maître. Ça, cette phrase, je l'ai dit souvent. Ou alors, ils ne sont pas athées, ils sont anti-Dieu. Ils savent que Dieu existe, ou ils le croient, mais ils sont contre. Ils rejettent tout de Dieu. Un état un peu plus intermédiaire, ce serait des gens qui ne rejettent pas Dieu globalement, mais qui rejettent Dieu pour certains aspects précis de leur vie. Dans tel ou tel domaine, ils rejettent l'autorité de Dieu parce que cela s'oppose à leur désir personnel. Et rejeter Dieu, repousser Dieu de notre vie, c'est ce que la Bible appelle le péché. Et c'est exactement ce que Satan aimerait que nous fassions, pécher. Lorsque dans un domaine de notre vie, nous rejetons Dieu, nous collaborons, peut-être même sans le savoir, avec Satan, et nous luttons contre Dieu. Jésus a dit, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Après, alors, les ennemis, les collabos, c'est très dur, hein, collabos. On considère facilement que ça, ce sont les ennemis, mais il y a deux autres catégories qui sont assez proches, qui, elles, on ne considère pas généralement comme étant ennemis. Il y a d'un côté ceux qui sont indifférents. Pour eux, la guerre ne les concerne pas. Alors généralement, c'est des gens qui ont, entre guillemets, la chance d'être dans une zone en dehors des conflits. La guerre n'est pas venue jusqu'à eux. Ils ne s'en mêlent pas. Ils continuent à traverser la guerre le plus paisiblement possible. Sur le plan spirituel, cela se traduit par des personnes qui sont indifférentes à Dieu. Alors, elles ont entendu parler de Dieu, mais cela ne les intéresse pas. Elles sont trop occupées, par ailleurs, pour se préoccuper de Dieu. Elles ont tellement de choses dans la tête. Pourquoi se préoccuper de Dieu ? Et elles ne prennent donc aucune décision par rapport à Jésus, parce qu'elles ne se sentent pas concernées. Ça, ce n'est pas mon problème. Ça ne m'intéresse pas. Une autre catégorie assez proche, ce sont ceux qui sont neutres. Alors eux, c'est un peu différent, parce que ce n'est pas un manque d'intérêt. Ils ont choisi de ne pas prendre parti. Alors, dire que l'on est neutre ne nous protège pas pour autant de l'ennemi. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne a envahi plusieurs pays neutres. Mais il y a cependant un pays neutre qu'Hitler n'a jamais attaqué, c'est la Suisse. Alors, il y a pensé, il en a même eu envie, mais il ne l'a pas fait parce que ce n'était pas son intérêt. C'est très précieux d'avoir un pays neutre à côté de vous, très proche de vous, surtout si vous avez même une frontière commune. Plus ce pays est proche, plus c'est intéressant pour vous. Parce qu'un pays neutre ne s'oppose pas à ce que vous faites. La Suisse ne s'est pas opposée à la politique de l'Allemagne. Et puis aussi, comme elle ne s'oppose pas, elle n'est ni pour ni contre, elle peut vous aider. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, les nazis ont échangé d'énormes quantité d'or, de l'or souvent volé et conquis dans d'autres pays, contre de l'argent suisse. Parce que cet argent neutre leur a permis de commercer avec d'autres pays. Un pays neutre, c'est aussi très précieux, parce qu'il ne s'oppose pas à vous. Et un pays neutre ne prend pas parti. Et chose assez, je trouve, étonnante, pendant les années de guerre, 84% de la production de l'armement suisse a été vendue à l'Allemagne, pendant la durée de la guerre. À la fin de la guerre, les usines allemandes étaient bombardées, mais pas les usines d'armement en Suisse, parce que les Alliés n'ont jamais osé, parce que c'est un pays neutre. Avoir quelques billes dans un pays neutre, c'est précieux. Et après la guerre, personne n'a considéré que la Suisse s'était montrée un ennemi des Alliés. D'autant plus que la neutralité de la Suisse a aussi permis à bien des gens de s'échapper. La Suisse a accueilli des pilotes, des agents secrets. La neutralité, d'un côté ou de l'autre, on a tendance à considérer que c'est quelque chose ni bon ni mauvais. Alors sur le plan spirituel, la neutralité se traduirait par des personnes qui ne veulent pas prendre parti pour Dieu. Par exemple, des personnes qui savent ce que Jésus demande. Jésus leur demande de les suivre, mais elles font le choix de ne pas le faire. Elles ne sont pas contre. Simplement, elles décident de ne pas le suivre. Elles décident de ne pas s'engager. Elles ne sont ni pour ni contre Dieu. Elle refuse de prendre parti. Elle refuse de faire un choix. Alors, il y a un point commun entre ceux qui sont indifférents à Dieu et ceux qui veulent rester neutres par rapport à Dieu. Les deux manifestent clairement qu'ils n'ont pas la volonté de suivre Jésus. En refusant de suivre Jésus, ils se positionnent contre Jésus. Jésus a dit, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Dans une guerre, il y a des sympathisants. Pendant la dernière guerre, il y a eu seulement des sympathisants, des alliés, des sympathisants qui espéraient la défaite des nazis, des sympathisants, des résistants. Ils étaient favorables aux juifs, favorable aux différentes personnes engagées, favorable aussi aux forces françaises qui étaient à l'extérieur de l'Europe ou en Angleterre. Ils étaient favorables, mais concrètement, ils n'ont rien fait. Si un jour vous êtes agressé dans la rue, ça vous fera une belle jambe de savoir que les gens qui vous regardent et qui n'interviennent pas étaient en fait favorables. Vous étiez favorables. Mais pour vous, ça ne change rien. Sur le plan spirituel, les sympathisants de Dieu, se traduit par des personnes qui éprouvent des sympathies, enfin de la sympathie pour les valeurs chrétiennes. Elles éprouvent de la sympathie pour Jésus, de la sympathie, mais rien de plus. Et malheureusement, parce qu'elles éprouvent de la sympathie pour Jésus, elles s'imaginent qu'elles sont avec Jésus. Mais il n'en est rien. Sur le plan spirituel, éprouver de la sympathie pour le christianisme ou pour Jésus n'est pas suffisant pour être avec Jésus. Ils ne sont pas avec Jésus parce qu'ils n'ont pas pris la décision de le suivre. Le combat de Jésus n'est pas leur combat. Ils ont entendu ce que Jésus attendait d'eux, mais ils ne font pas ce que Jésus leur demande. En Luc 6, 46, Jésus a dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Est-ce que nous sommes avec Jésus, ou bien est-ce que nous sommes des sympathisants de Jésus ? Ne soyons pas seulement des sympathisants de Jésus, parce que Jésus a dit, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Dans une guerre, il y a les armées officielles, et puis il y a souvent différents petits groupes de combattants, plus ou moins indépendants. Alors pendant la dernière guerre, il y a eu plusieurs mouvements de résistance en France, et tous ces mouvements avaient un point commun. Ils étaient contre les nazis. Mais certains de ces groupes ne s'entendaient pas sur le reste. Ils se sont même combattus parce qu'ils ne se battaient pas tous pour la même cause. Sur le plan spirituel, combattre pour Dieu, ce n'est pas la même chose que de combattre avec Jésus. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent que parce qu'elles font un certain nombre de choses pour Dieu, alors elles sont avec lui. Mais pourtant, elles ne sont pas avec Jésus. Ce sont des combattants, des gens qui font des choses pour Dieu, mais qui ne sont pas avec lui. En Matthieu 7, 22, Jésus dit, « Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront, « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Je leur déclarerai alors, « Je ne vous ai jamais connus, allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » Il ne suffit pas de faire un certain nombre de choses pour Dieu pour être avec Jésus. Ce qui compte avant tout, ce n'est pas de faire des choses pour Dieu, c'est d'être avec Jésus. Mais alors, c'est quoi être avec Jésus? Être avec Jésus décrit deux aspects distincts, mais liés l'un à l'autre. Alors, le premier aspect, être avec Jésus décrit notre disposition de cœur. C'est notre attitude à nous par rapport à Jésus. Nous l'aimons. Nous lui faisons confiance. Nous acceptons de voir les choses comme lui-même les voit. Il nous éclaire. Nous acceptons ce qu'il nous montre. Et en particulier, nous acceptons de reconnaître notre péché, de demander pardon à Dieu et de décider de ne plus pécher. Être avec Jésus, c'est lui donner notre vie. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour lui. Et c'est nous engager à le suivre et à lui obéir. Alors, c'est ce que nous appelons couramment la conversion ou la nouvelle naissance. Nous reconnaissons Jésus comme le Seigneur de notre vie. Nous étions loin de lui, mais maintenant, nous sommes avec lui. Plus contre lui, mais avec lui. Le deuxième aspect qu'il y a dans être avec Jésus, c'est ce que Jésus a fait pour nous, ou c'est ce que nous sommes en lui, en Jésus. Être avec Jésus décrit notre rapport à Jésus. Par la foi, nous sommes unis à Jésus. Et parce que nous sommes unis à Jésus, nous sommes au bénéfice de l'œuvre de Jésus. C'est notre péché personnel à nous que Jésus a pris sur lui. Pourquoi? Parce que sa parole nous dit que nous avons été crucifiés avec lui. Jésus est mort et il est ressuscité. Et par notre union avec lui, nous aussi. Romains 6, 8 nous dit, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. C'est notre union à Christ qui nous permet cela. Si on est indépendant, on n'est pas au bénéfice de tout cela. Notre place est toujours avec Jésus. Éphésiens 2, 6 écrit, il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est par notre union avec Jésus, parce que notre cœur est uni à Jésus, que nous sommes unis à lui et que nous avons été unis à son œuvre et que nous avons été sauvés par lui. Non seulement nous sommes avec Jésus, mais plus que cela encore, Jésus vit maintenant en nous par son esprit. Romains 8, 9. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Le Saint-Esprit est la marque, la preuve de notre union avec Jésus. Et le verset poursuit, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Ça, ce n'est pas de la dépendance. Ça ne suffit pas d'être pour Jésus, être avec Jésus. Si nous ne sommes pas avec Jésus, si Jésus n'est pas devenu le Seigneur de notre vie, si Jésus n'est pas devenu le Sauveur de notre vie, alors nous sommes séparés de lui pour toujours. Parce que nous ne devons pas oublier une chose, et ça nous l'oublions parfois lorsque nous pensons au combat spirituel dans lequel nous sommes engagés. Nous oublions que notre situation de départ, c'est d'être ennemi de Dieu. Colossiens 1:21 nous dit « Vous étiez autrefois étrangers, ennemis de Dieu, par vos pensées et par vos œuvres mauvaises. Notre péché a fait de nous les ennemis de Dieu. Si nous présentons devant Dieu de façon indépendante, nous serons considérés par Dieu comme ses ennemis. La seule possibilité pour nous d'être reçus de Dieu, c'est de nous présenter avec Jésus, unis à lui, au bénéfice de ce que Jésus a fait. Même si nous pensons que nous sommes neutres par rapport à Dieu, même si nous sommes des sympathisants de Jésus, même si nous faisons des choses pour Dieu, si nous ne sommes pas unis à Jésus, alors nous resterons pour toujours les ennemis de Dieu. La colère de Dieu restera sur nous. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Nous avons besoin d'être réconciliés avec Dieu, et cela ne peut se faire que par notre union avec Christ. Tant que nous ne sommes pas unis à Jésus, nous resterons contre Jésus. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Nous avons besoin de faire la paix avec Dieu. Nous avons besoin de partir sur une nouvelle base. Et ça, c'est ce que Jésus nous propose. C'est pour cela qu'il est venu, pour faire la paix avec nous. Il nous offre la possibilité d'une nouvelle vie. 2 Corinthiens 5, 17 et suivant nous dit « Celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voilà, ce qui est nouveau est déjà là. » Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes. On est compte ? Sans tenir compte de nos fautes, si nous sommes unis à Christ. Voilà comment nous présentons devant Dieu. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur au nom de Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Paul qui a écrit cette lettre, uni à Christ, a dit, au nom du Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Et moi j'aimerais maintenant inviter ceux qui ne sont pas encore réconciliés avec Christ, de prendre cet engagement, de saisir cette main qui nous est tendue, une main d'amour, une main de grâce. Sans cette union, à l'issue de notre vie, à l'issue du combat de notre vie, nous serons considérés contre Dieu. Mais si nous sommes unis à Christ, alors, parce que Christ a payé pour nous, parce que nous sommes vus au travers de lui, alors nous serons considérés comme étant avec lui. J'aimerais vous inviter un moment de prière silencieuse. Si jamais quelques personnes désiraient vraiment faire un pas en direction de Jésus ou avoir peut-être plus encore d'éclaircissement, j'invite ces personnes même discrètement à lever un petit peu la main. Moi, je garderai les yeux ouverts, vous, je demande de fermer les yeux. Et puis après, nous pourrons convenir d'un moment pour nous retrouver. Je vous invite maintenant, chacun silencieusement, à nous remettre devant Dieu. Je demande à tous, je demande de fermer les yeux, s'il vous plaît. Seigneur Dieu vivant, merci car tu es celui qui est venu jusqu'à nous. Tu es le Dieu parfaitement saint, juste et bon. Ton désir pour nous n'est pas que nous soyons séparés d'avec toi pour toujours, mais qu'au contraire, nous soyons avec toi. Mais cela ne peut se faire que si nous sommes unis en Christ, unis par le Christ. Et merci parce que c'est pour ça qu'il est venu, pour donner sa vie. Mais Seigneur, me réjouir de cette espérance que j'ai en toi. J'aimerais aussi te remettre cette personne qui a levé la main. Que Seigneur, vraiment, merci car tu es le Dieu qui veut se révéler. Tu es le Dieu qui ne rejette personne. Tu es le Dieu qui tend la main. Seigneur, que chacun d'entre nous qui ne puisse avoir personne ici, qui ne soit pas uni à toi et qui un jour se retrouve du mauvais côté, pour toujours, là où il y aura des pleurs, des regrets. Merci parce que notre espérance, Seigneur, en toi est certaine. Et tu es le Dieu qui lui est toujours proche de nous. Donne-nous, Seigneur, nous de notre côté, d'être toujours proche de toi. D'accepter la main que tu nous tends, mais aussi de ne plus jamais la lâcher et de vivre maintenant pour toi. Merci parce que la vie en toi est la plus belle de toutes. Merci car tu es le Dieu d'amour, le Dieu de grâce. Tu es le Dieu qui nous aime, le Dieu qui prend soin de nous. Gloire te soit rendue, Seigneur. Amen.